When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de notre marathon de folie, 20 épisodes en 20 jours pour vous parler de l'intégralité des équipes qui joueront au play-in et ou au play-off. On parle également de celles qui ne n'iront pas jusqu'au bout et ne se qualifieront pas pour les play-offs. Aujourd'hui, cette équipe-là, on devrait la retrouver en play-off. Elle devrait théoriquement jouer les premiers rounds, ou en tout cas faire parler d'elle. Ce sont les Los Angeles Clippers. Tu étais l'attaché aux Clippers, Gabin. Tu arbores fièrement sur YouTube un t-shirt des Clippers. Rappelons que tu as passé quelques temps à Los Angeles. Alors, est-ce que ça t'a rappelé quelques souvenirs de regarder ces Clippers ces derniers temps?
Ouais, forcément, c'est une équipe où je me suis quand même attaché à cette équipe. Je dirais que c'est mon équipe favorite de l'Ouest, du coup, parce qu'à l'Est, je soutiens les Raptors. Et en fait, j'étais allé les voir 10 fois pendant mon voyage aux États-Unis, parce que c'est pas cher du tout, les Clippers. Donc forcément, on s'y attache un peu. Et ça m'a fait plaisir, en fait, de regarder les matchs des Clippers, parce que ça joue assez bien. Et voilà, j'ai pas eu la pire équipe à regarder, quoi.
Ça joue mieux que les Raptors, disons que, soyons honnêtes, comment expliquer le fait que Gabin ait deux équipes? C'est qu'en fait, quand on s'est attribué les équipes, bah, mécaniquement, les supporters des équipes s'étaient mis, ou l'équipe qu'ils supportaient, bon... C'était une époque où on a cru peut-être que les Raptors seraient dans la discussion. Bon, on va un peu oublier ce qui s'est passé, notamment la perte du franchise player Malak Elfyn, parce que qui met maintenant 50 points. Enfin, bref, ça c'est... Bref.
Et puis on a perdu 15 matchs depuis la répartition, donc c'est un peu compliqué aussi.
Ouais, effectivement, ils ont arrêté. Ils ont décidé, non, on ne veut pas d'épisode spécial, donc pourquoi pas. Hein, j'avais pas fait... Secret de production, j'avais pas fait la miniature Raptors, hein, donc comme ça c'était fait. En tout cas, vous connaissez la chanson, on va commencer par le résumé de la saison des Clippers, mais avant de commencer, on vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube où les épisodes sont toujours en avant-première, et également sur Twitter pour ne rien rater parce qu'il y a un récap de tous les épisodes qui sont sortis, et il y en a beaucoup hein, qui sont déjà sortis, 13 au moment où vous écoutez celui-ci qui est le 14e. Gabin, je commence à connaître cette introduction par cœur, donc commençons la saison 2023-2024 des Clippers. Je vois qu'on arrive à la fin des previews parce que maintenant, les saisons des équipes traitées méritent le détour. C'est-à-dire qu'il s'est toujours passé plusieurs choses et les Clippers en font partie avec un gros trade, notamment.
Ah oui, ça n'a pas été une promenade de santé toute la saison, il s'est passé beaucoup de choses. Et oui, le trade, donc tu viens de le dire, de James Harden sur un timing un peu bizarre, parce qu'il arrive juste après le début de la saison régulière. Et ce trade, il avait fait beaucoup réagir. En plus, il avait enchaîné avec lui 6 défaites consécutives. Donc, on était vraiment limite inquiet à se dire est-ce que c'était vraiment la bonne solution pour les Clippers. D'autant plus qu'ils ont envoyé une pléthore de picks contre James Harden. Donc, le deuxième plus gros budget de NBA sans picks maintenant, ça signifiait vraiment que cette fois-ci, c'est l'année des Clippers et qu'il n'y a plus de retour arrière possible. On y va all for in, tout pour le titre. Mais l'équipe a réussi à cliquer assez bien ensuite. Il y a une grosse période où l'équipe a gagné beaucoup de matchs, notamment quand ils ont pris la décision en fait de mettre sur le banc Russell Westbrook pour faire rentrer dans le 5 majeur Terrence Mann. Et Westbrook sur le banc, ça a très très bien fonctionné. Un energizer un peu qui bouge le banc adverse, ça fonctionne super bien. Puis après, la saison des Clippers, c'est aussi beaucoup de coup de mou assez inexplicable, des défaites contre les Bucks, les Sixers, sans les meilleurs joueurs adverses, contre les Hawks, sans Trae Young. Il y a des moments où l'équipe peut être la meilleure équipe du monde sur certains matchs, et ensuite perdre contre des équipes qui ne seront même pas au play-in. Donc ces Clippers, oui, J'irai pas qu'on est inquiet, parce que de toute façon, c'est une équipe qu'on attend forcément en play-off. On le savait depuis le début de la saison régulière, fallait juste faire attention à ce qu'ils ne choquent pas pour se retrouver avec un mauvais seeding. Et en parlant de seeding, justement, ce qui m'excite un peu, c'est que si tout reste comme ça l'est, ça ne devrait pas trop bouger sur la quatrième place, qui est aux Clippers actuellement, et les cinquièmes sont les Mavs. Et on sait que les séries Clippers-Mavs, depuis que Luka Doncic est au Mavericks, ça a toujours été super explosif. Donc si on a un premier tour Clippers-Mavs, j'ai très très hâte de voir ça.
Eh bien, gardons cette possibilité pour la suite. Gamin, et dernière chose, peut-être sur les Clippers. C'est une équipe, je suis assez d'accord avec toi, qui a eu plusieurs saisons. Il y a eu déjà cette avant-saison, mais on peut même remonter au post-mortem de l'année dernière où c'était un post-mortem assez morose parce qu'on avait l'impression d'avoir revécu le même scénario avec une blessure de Kawhi alors qu'il a été très très fort sur son seul match de play-off quasi dans les derniers play-offs. Le fait que l'équipe avait peu de marge, ensuite il y a tout l'été où peut-être viendra James Harden, et je suis d'accord avec toi, cette période en pleine bourre où, pour voir les Clippers, que je pense que c'est une équipe que j'aime plutôt bien, je vais être assez honnête, enfin la théorie des Clippers, cette sensation que c'est la meilleure équipe du monde parfois. Et le problème, c'est parfois. C'est ça qui pose un immense problème. Commençons, Gabin, sans plus tarder, par les trois faiblesses. Pour ceux qui nous découvrent, peut-être que des fans des Clippers nous découvrent, le format de preview de Dunk Hebdo à quelques encablures des playoffs, c'est le pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Et pour ce faire, on met en avant trois faiblesses. La première des faiblesses dont tu veux parler, c'est la défense au cercle. Gabin, alors pourquoi est-ce que ça t'inquiète pour un éventuel titre des Clippers ?
Alors, faut en parler de la défense au cercle, parce que pour moi, une équipe contenders, on a l'habitude de dire qu'il faut qu'elle soit top 10 en attaque et en défense. Elle est très très forte offensivement, on aura l'occasion d'en parler plutôt positivement. Par contre, défensivement, il y a quelques problèmes, dont la défense du cercle. C'est une équipe qui concède 49 points par match dans cette zone. C'est une des pires, défenses sous le panier. Mais en fait, je vous vois venir. Quand on dit défense du cercle, vous pensez que j'allais parler du pivot pour le critiquer? Non. Ivica Zubac, si on peut en parler, il est très honnête à son rôle. C'est un défenseur très, très honnête qui se fait très rarement post-up et prendre un contre un sous le panier. En plus de ça, sur le banc, on a Mason Plumlee. Je suis pas fan, mais pour un backup pivot, ça fait très bien le travail. Mais alors pourquoi les Clippers prennent autant de points sous le cercle? C'est simple, c'est que les Clippers, c'est une équipe qui adore switcher sur les pick and roll. Ce qui fait qu'en fait, Ivica Zubac, il y a plein de moments où il va switcher sur un pick and roll et il va pas être sous le panier à chaque fois. Et donc ce qui se passe, c'est que déjà les pick and roll, ça laisse potentiellement des ouvertures pour ensuite cutter et faire des transitions sous le panier. Ils sont beaucoup à voir justement sur des cuts où il n'y a plus personne sous le panier, l'espace est assez libre et les joueurs arrivent à en profiter adverse. Et aussi des moments où du coup tout le monde a switch, Zubac se retrouve sur un ailier et c'est un ailier des Clippers qui doit prendre le pivot sous le panier et se fait avoir. Donc c'est des petits détails, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais je me suis dit qu'on est quand même à l'ouest, il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir envie de jouer sous le panier, il y a beaucoup de match-up qui vont te poser problème là-dessus. Je pense aux Thunder, Lakers, Nuggets, Pelicans qui marquent beaucoup dans cette zone. Et en plus de ça, tout ce que j'ai évoqué, ça apporte un autre problème, c'est que c'est une équipe qui joue pas forcément de rebond. Déjà offensivement, Zubac il est énormément impliqué dans les pick and roll, c'est lui qui va tout le temps poser les écrans et c'est un joueur qui joue pas forcément sous le panier pour laisser la place. Et donc il y a pas de rebond, il y a pas forcément de putbacks. Et même en défense, comme j'expliquais, il est pas souvent sous le panier, donc les défenseurs adverses arrivent régulièrement à choper des rebonds offensifs. Donc c'est, pour être tout à fait honnête, contrairement à ce que l'opinion générale qui suit pas forcément l'équipe pense, la défense de Clippers sur demi-terrain est bonne. C'est une assez bonne défense, mais c'est le seul point noir qu'il faudrait améliorer pour les playoffs. Donc c'est surtout le rôle de Tyronn Lue à voir ce qu'il pourrait faire à ce niveau-là.
C'est vrai que Il y a beaucoup. Ce qui est assez intéressant quand on regarde les Clippers, c'est que selon les joueurs sur le terrain et selon les pivots même sur le terrain, la manière dont ils se font attaquer défensivement n'est pas la même. Et je te rejoins. Quand c'est Zubac, ça tient plutôt bien. Il y a quand même des séquences où qui est plus trop dans la rotation, mais tout ce qui concerne Daniel Theis, c'était assez risible. J'ai été checker basketball, pas basketball référence, justement, j'ai été checker cleaning de glace. En gros, quand Daniel Tice était sur le terrain, les Clippers, leur adversaire, avait décidé d'aller près du cercle, c'est-à-dire que les, en termes de fréquence et de réussite, on était sur un des pires 5 de la NBA à 100 possessions, c'est-à-dire sur un peu plus de 205, c'était vraiment assez catastrophique, et je te rejoins, il manque peut-être d'un joueur un peu plus dominant à l'aide. Alors, est-ce que ça ne rejoint pas un peu ce dont on a parlé dès le début? Ça reste une équipe qui, je trouve, est extrêmement nonchalante sur certains aspects, c'est-à-dire que les aides sont faites de manière assez douteuse, il n'y a pas assez de communication loin du ballon, ça a été assez catastrophique post-All-Star Break, mais est-ce que tu imagines des solutions en play-off pour eux vis-à-vis de ça, ou est-ce que tu es assez inquiet par la possibilité que, en gros, ils se fassent ouvrir à l'intérieur, ce qui a été le cas contre Minnesota déjà? Si on regarde les matchs de... ils sont à 1 victoire, 3 défaites contre Minnesota cette année. Minnesota pilonne les Clippers à l'intérieur. Les Pelicans ont déjà fait la même aussi.
Ouais, c'est ça. En fait, sur si les Clippers c'était une équipe de l'Est, j'en aurais pas parlé parce que c'est un peu une conférence déliée. Et ouais, l'Ouest, bah t'as parlé de Minnesota. Et le plus triste, c'est que comme j'ai dit, Zubac c'est pas un mauvais défenseur sous le cercle. Il a pas forcément l'occasion d'y rester et de contester. Donc je vois pas forcément de solution à part changer totalement l'identité défensive. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller en aide, on arrête de switcher, chacun s'occupe de son défenseur. Le problème, c'est que tu vas créer d'autres problèmes. Et par exemple, il y a énormément de séquences où James Harden, bah, qui reste un peu le maillon faible de cette défense, se fait passer. Bah, là, Zubac est régulièrement obligé d'aller contester le joueur qui a passé Harden et qui est en train de driver. Donc forcément, en fait, si tu arrêtes les aides, bah, Harden va se faire ouvrir. Donc tu es un peu obligé de jouer comme ça. Je pense que tu vas accepter de prendre des points sous le cercle, quoi qu'il arrive.
Ce qui est un peu triste pour ces Clippers, c'est aussi l'absence d'alternatives. Parce que quand on regarde leur secteur intérieur, peut-être que tu en parleras après, Gabin, mais il y a le... Moi, il y a ce sentiment, on en parlera parce que là, on s'avance un peu par rapport à des potentiels match-up, mais il y a cette idée qu'en gros, si une équipe arrive à mettre à mal, comme tu l'as dit, hein, arrive à faire sortir au lâche Zubac, ou arrive à les mettre en difficulté s'ils jouent du drop ou je ne sais pas, quelle est leur alternative pour défendre? Ils ont le fameux small ball qui joue à une période, ils le jouent de manière assez sporadique, ils le jouent moins. PJ Tucker, ils l'ont ressorti du chloroforme contre les Nuggets, on en parlait en off, mais c'est pas très satisfaisant. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en fait, si Zubac, il vient à pu être un joueur ultra intéressant ou... Je dirais pas ultra dominant parce qu'il l'est pas. Mais s'il est plus utile pour eux dans la protection de cercle, ils ont pas d'alternative. Parce que ça veut dire que Daniel Tice et Plumlee aussi, vu que ce sont des prototypes qui se ressemblent un peu, même s'il y a des nuances, seront aussi inefficaces. Donc je te rejoins, c'est un peu inquiétant pour eux. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, ou alors est-ce qu'on avance sur une autre parcelle de défense?
L'autre problème est assez lié, donc on peut avancer dessus.
Eh bien, vas-y, on va parler sans transition de la défense de transition. Vas-y, Gabin.
Pas mal celle-là, elle est magnifique. Et oui, la défense en transition, parce que comme j'ai dit, bah, mineur à la défense sur demi-terrain, ça va encore. Mais l'énorme point noir des Clippers, c'est la défense en transition. C'est là où ils prennent des camions de points chaque soir et contre toutes les équipes, ça fonctionne. Tu sais que les Clippers, faut les jouer vite en transition. Les équipes en face, elles sont d'ailleurs super fortes pour les attaquer parce que les Clippers sont la troisième pire équipe en termes d'efficacité adverse sur les transitions. Ils prennent 1.19 points par possession sur transition. Il y a que les Hawks et les Blazers qui font pire. Donc c'est pas réputé pour être les meilleures défenses de NBA. Et ça pose problème. Pourquoi ils sont nuls en transition? Parce qu'ils sont pas en place en fait. Ils mettent énormément de temps après une possession à revenir en défense. Et ça, je pense que ça vient aussi le fait qu'il soit lent, du fait qu'il soit vieux, qu'il soit âgé. Le 5 de départ, il a 30 ans de moyenne. Et encore, j'ai été gentil, j'ai mis Terrence Mann, mais j'ai même pas compté PJ Tucker qui joue par moment. Donc ça galère à galoper. En plus de ça, Zubac, bah oui, il est jeune, mais c'est pas le plus rapide de l'équipe. Donc en fait, il y a beaucoup de séquences où les Clippers vont perdre un ballon ou louper un rebond, et en face, ça va galoper. Ils vont pas avoir le temps de suivre. Donc tu concèdes énormément. De points là-dessus, et en plus de ça, les adversaires, ils arrivent régulièrement à jouer la transition contre les Clippers. Selon Cleaning the Glass, c'est 15% des possessions adverses qui sont des transitions. Pourquoi ? Deux problèmes. J'en ai parlé, les rebonds défensifs. C'est pas une équipe qui joue énormément les rebonds défensifs. Donc forcément, eh ben, en face, l'équipe va réussir à choper les rebonds et galoper de l'autre côté. En plus de ça, les Clippers, c'est une équipe qui adore jouer écartée sur le 3 points. Donc ça fait des longs rebonds qui volent bien haut. Donc comme ça, ça arrive encore plus loin. C'est-à-dire que le rebondeur, parfois, il est déjà quasiment aux 3 points. Et derrière, ça peut galoper encore plus vite. En fait, toute la composition de leur attaque amène à ce que les transitions soient éclatées. Et en plus de ça, eh ben, c'est une équipe assez moyenne sur les pertes de balles. Ils perdent quand même beaucoup de ballons dans leur attaque. Ils sont pas mauvais, mais ils sont dans la moyenne de NBA. Sauf que tu cumules les pertes de balles avec le fait qu'ils prennent pas de rebond, ça fait qu'ils prennent énormément de transitions. Et au final, c'est 23 points par match qu'ils prennent sur des transitions. C'est énorme. Et c'est vraiment la bête noire de leur équipe.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce cocktail un peu compliqué avec une équipe qui, au niveau des fréquences, est dans la moyenne de la NBA, mais qui, contre qui on est ultra efficace, tu l'as dit, mais Hawks et les Blazers, c'est quand même deux équipes qui récemment sont pas réputées pour être des grandes équipes en transition. Et il y a, t'as déjà fait le tableau, hein, il y a beaucoup de paramètres similaires. Il y a aussi le fait que le premier rideau soit un peu parfois déficitaire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant quand tu regardes l'historique des Clippers et de leur manière de prendre moins de... En gros, plus le temps avance, plus ils deviennent perméables aux transitions. Et je me demande si c'est pas la conséquence non seulement de... Ok, on peut dire que Kawhi et PG sont plus vieux, mais je pense que c'est aussi l'évolution du supporting cast autour d'eux, en fait. C'est-à-dire que à moins jouer de small ball, à jouer avec tout le temps, quasiment tout le temps un pivot cette année, à jouer avec James Harden en premier rideau, comme il est souvent à la porteur de balle, à jouer avec aussi Russ West, même si Russ West... va faire les efforts, mais ça reste un joueur qui a parfois des pertes de balles qui sont un petit peu lunaires. Bah, en fait, il y a un cocktail qui est assez détonnant et qui les amène à se prendre des camions de transition, effectivement. Donc, je te rejoins parfaitement là. Est-ce que tu penses que ça peut s'améliorer? Parce que moi, des fois, je me fais cette réflexion en voyant les Clippers, je me dis, s'ils seraient un peu moins nonchalants, s'ils seraient un peu moins dans le contrôle à la vétéran, il pourrait limiter la casse sur des settings de playoff. Est-ce que tu as ce petit espoir-là, quand même?
Bah, pas beaucoup, parce que structurellement, il n'y a pas vraiment moyen d'améliorer ça. Le seul moyen, comme tu as dit, c'est de courir plus et de revenir plus vite de la transition. Mais j'ai pas. On peut toujours se dire qu'en playoff, ils vont faire mieux. J'ai pas l'impression qu'ils soient nonchalants et qu'ils font exprès de trottiner. Donc, je suis pas sûr que ça va s'améliorer en playoff. Donc ouais, je suis assez inquiet à ce côté-là, parce que si tu tombes sur un match-up où ça a envie de galoper en face avec une équipe remplie de jeunes, bah tu peux prendre très très cher. Il y a eu beaucoup de matchs où ils font beaucoup d'erreurs offensives qui mènent à des transitions, bah tu prends assez vite l'eau et après c'est compliqué de remonter. Donc oui, je suis assez pessimiste sur ce point-là chez les Clippers, ouais.
Ce qui est assez terrible pour les Clippers, c'est que si on a dressé dans la première faiblesse le portrait des Pelicans et des Wolves qui leur avaient fait énormément mal sur ce point-là, oui. Bah, quand tu regardes les équipes qui jouent le plus de transition NBA, deuxième, OKC. Bon, un peu compliqué du coup, parce que c'est quand même, on parle de trois adversaires potentiels ou en tout cas trois autres équipes qui devraient jouer un rôle important en playoff. Rappelons aussi que c'est un classement où les Lakers sont assez ultra efficaces sur les transitions. Ils l'ont été contre Cleveland il y a genre, alors au moment où vous l'écoutez, ça va faire 24 heures. Enfin bref, faut se méfier parce qu'en gros, ils ont quand même, là les deux points qu'on a mis en avant sont des points qui pourraient être vraiment très 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 handicapant contre certaines des équipes à l'ouest. Troisième faiblesse.
Ils devraient construire la nouvelle salle en Floride ou
exactement.
Déménage complètement.
Ou la franchise à Londres. Ils devraient porter candidature pour entrer dans la conférence Est s'il y a une expansion comme ça. Ils auraient peut-être vaincu le signe indien. La troisième faiblesse. Bon. Gabin, celle-ci, elle n'est pas surprenante de ouf, mais elle méritait d'être mentionnée. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes de blessures.
Et ça, j'en parle grâce à toi et à Constant, dédicace à lui. On a un WhatsApp d'Unkebdo où on parle régulièrement de basket, vous le savez. Et j'avais encore dit, après une blessure, je crois que c'était Kawhi Leonard, putain, fais chier pour les playoffs, on les verra jamais à 100%. Et Constant m'avait un peu engueulé, il m'a un peu allumé toute une réflexion derrière, j'ai beaucoup réfléchi après, il m'a dit, bah oui, mais en fait, si les joueurs se blessent souvent et qu'ils sont injury prone, ça fait partie, en fait, de la construction d'équipe. C'est-à-dire que si ils ne sont jamais en forme, eh ben c'est pas de la malchance à chaque fois, ça fait vraiment partie de la nature de l'effectif. Et je pense qu'il a tout à fait raison, en fait. Donc ça m'a fait changer d'avis à ce point-là, au lieu de dire à chaque fois, putain, les Clippers, on les verra jamais ensemble. Eh ben oui, parce que dans l'effectif, on a Kawhi Leonard, Paul George. Cette année, il joue beaucoup. Harden, il a 70 matchs, Paul George 71, Kawhi 68. Kawhi est blessé en ce moment au genou, mais les nouvelles sont assez rassurantes, il devrait jouer au play-off. Mais en fait, quand on prend l'historique, bah c'est assez improbable d'imaginer les Clippers en santé jusqu'au bout, et donc c'est un vrai paramètre à prendre en compte, d'autant plus que tout fonctionne bien parce que on a vraiment énormément de joueurs de talent dans l'effectif, et notamment Kawhi, Paul George et Harden. Sur toutes les séquences où ils ont joué ensemble sur le terrain, c'est un net rating de plus 10. Donc tu vois bien que c'est assez inarrêtable. Sauf que bah c'est assez improbable de les imaginer ensemble jusqu'au bout. Donc s'il y a une blessure, je ne dirai plus c'est de la malchance, c'était prévu.
C'est vrai que c'est une année assez étrange par rapport aux Clippers, parce que moi, je me rappelle dans l'épisode que l'on fait avec un parallèle Bucks-Clippers au début de la saison, et où on parlait de l'arrivée un peu difficile de James Harden et de l'arrivée un peu difficile de Damian Lillard dans leur deux nouvelles franchises, moi je me rappelle avoir dit très clairement, il faut arrêter de voir les Clippers comme des favoris pour le titre, parce qu'on sait bien en substance que c'est une équipe qui aura des problèmes de blessures, etc. Et là, on remarque que globalement, c'est l'année la plus où les Clippers ont été dans leur meilleure santé depuis la création du projet Clippers dans la mouture actuelle avec Kawhi et PG. Ce qui fait qu'on peut voir le verre à moitié plein et se dire que c'est peut-être l'année où ils vont rester en bonne santé. On peut voir le verre à moitié vide et se dire que Kawhi, pour une nouvelle fois, actuellement, on est à quelques encablures des playoffs et il a une blessure au genou et on ne sait pas trop ce qui se passe et les fans des Clippers sont un peu paniqués. Donc, à voir. Ce que je dirais juste, c'est que moi, là où je ne veux pas mettre trop de crédit sur le fait d'avoir beaucoup joué sur cette saison régulière, c'est qu'ils ont beaucoup joué sur la saison régulière. En fait, tout est dans le titre. C'est-à-dire que l'intensité des playoffs où ils vont devoir jouer, parce qu'ils ne se sont pas assurés un premier tour facile. Alors, est-ce qu'il y a un premier tour facile à l'Ouest? On ne sait pas. Mais avec les seedings actuels, ils n'auront vraisemblablement qu'un avantage du terrain sur le premier tour, ce qui fait qu'ils vont devoir aller gagner, si jamais l'objectif c'est le titre, et c'est le titre, c'est gagner 3 séries à l'extérieur, avec des joueurs injury prone, qui ne peuvent pas se permettre de rater 2 matchs dans une série, parce que tu ne peux pas. Ça me paraît difficile. Et effectivement, on va appeler ça le théorème Suns. Qu'on avait eu du côté des Suns. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gaba?
Non, bah on fera le plancher plafond plus tard, mais en fait oui, bah c'est l'équipe aura rien à voir si on a des blessés ou si on les a pas. Donc faut commencer à faire des prières les fans des Clippers, parce que beaucoup de choses vont se jouer là-dessus. Ouais.
Eh bien, enchaînons. Comme d'habitude, on vous fait une première partie un petit peu négative, on le sait, on s'excuse. On va faire le positif. Alors, Gabin, fan des Clippers, il vous a peut-être miné le moral, mais il va vous redonner du baume au cœur avec le motif d'espoir, parce que c'est l'attaque. Donc, vraiment, ça fait un gros motif d'espoir. Gabin, pourquoi tu as espoir en l'attaque des Clippers?
Bah ouais, j'ai descendu des pointes sur la défense, mais l'attaque est exceptionnelle du côté des Clippers, et je suis sûr en plus qu'elle peut encore s'améliorer en playoff, parce qu'on a un star power évident. On a possiblement 3 joueurs DH20, ce qui aucune équipe NBA n'a autant de joueurs possiblement DH20, à part les Suns, mais Bradley Beal est loin maintenant du compte. Et donc en fait, c'est une équipe qui peut détruire ta défense sans problème sur beaucoup de match-up. C'est une équipe qui joue beaucoup d'isolation, ça marche très bien. Ils arrivent à créer énormément de décalages, et ensuite avec les décalages, c'est une équipe qui space énormément. Donc déjà, tu peux pas les doubler. Parce que si il y a un décalage, t'as beaucoup de shooters à 3 points très très compétents. Et ensuite, bah, la passe, elle est assurée. C'est une équipe qui du coup passe beaucoup. Et souvent, le jeu, ouais, c'est isolation ou pick and roll. Et derrière, passe quand on a créé des décalages et que les défenseurs viennent aider. Sauf que du coup, sur les passes, bah, t'as James Harden, t'as Paul George, t'as Kawhi Leonard. Et pour rentrer des 3 points, c'est létal. Kawhi Leonard, je l'ai pas vu louper un mid-range depuis sa draft, je pense. Donc c'est une équipe qui est très très compliquée à playoff, en playoff. En plus de ça, bah forcément le star power, ils peuvent sortir à tour de rôle un match référence en playoff et sortir des cartons à 40 points. Je pense qu'on va les avoir, les fameux matchs. Souvenez-vous de l'année dernière, on en a parlé rapidement, Kawhi Leonard contre les Suns, les matchs où il est là, c'est le meilleur joueur de la série. Et en fait, ça va être assez impressionnant de les voir jouer. Donc, ouais, on va parler d'un autre joueur qui fait partie de l'attaque en joueur clé, mais en tout cas, je vois pas comment les défenses vont réussir à s'adapter à cette attaque destructrice des Clippers.
Je suis assez d'accord, je dirais que la théorie 3 joueurs DH20 dans une équipe, c'est une théorie d'équipe titrable. C'est-à-dire que la question est de savoir, est-ce que les 3 sont encore DH20? En fait, là, tout est dans le titre, encore une fois. C'est-à-dire que tu peux défendre le fait que Kawhi y est, mais les deux autres, c'est un débat qui se posera en septembre, quand on fera le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, parce qu'en fait, on commence à en parler comme si c'était une habitude, mais faut le rappeler. Par rapport aux Clippers, moi, plus que la théorie des Clippers, c'est aussi... À l'intérieur de nos théories d'Unkebdo, c'est la théorie du meilleur joueur de la série ou des deux meilleurs joueurs de la série. Parce que moi, dans certains match-up de play-off, tu peux défendre l'argument selon lequel ils auraient les deux meilleurs joueurs sur le terrain. Par exemple, j'aime beaucoup Anthony Edwards, mais si tu as un PG ou un James Harden de gala, tu pourrais défendre le fait qu'ils auraient les deux meilleurs joueurs contre les Wolves. Et c'était justement un argument qu'on s'était mis dans la conversation d'Unkebdo. Quand tu as les deux meilleurs joueurs d'une série sur le terrain, ça devient un peu compliqué pour l'équipe qui les a pas. Seul problème, c'est que ça marcherait que contre des Wolves, par exemple, cet argument-là. Par rapport à l'attaque, juste petite inquiétude, tu vas me dire ce que tu en penses, comme tu les as beaucoup vus jouer. J'entendais cet argument, je sais plus qui aux États-Unis, c'est qu'en gros, c'est une équipe qui peut marquer beaucoup à 3 points, mais la production à 3 points des Clippers, contrairement à il y a quelques années, elle repose sur ses stars, en fait. C'est-à-dire que qui prend des 3 points? James Harden, Kawhi, PG, Amir Kofi, mais c'est dérisoire. Est-ce que ça t'inquiète pas un peu que le poids de l'attaque, il est quand même beaucoup... Les roleplayers sont déresponsabilisés de plus en plus du côté des Clippers, quoi.
Bon, c'est vrai ce que tu dis, hein. Je le ressens quand tu regardes les matchs. Souvent, l'attaque, c'est James Harden qui va avoir beaucoup le ballon en main, et derrière, t'as Kawhi et Paul George qui vont faire des systèmes off-ball à deux et qui vont tenter justement de se démarquer et de shooter. Mais en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis, on sait qu'en play-off, c'est eux qui vont avoir les ballons. Donc, pas forcément inquiet. Et puis après, quand le banc rentre en jeu, je trouve que Norman Powell est un joueur qui arrive quand même à prendre ses responsabilités. Westbrook va réussir à jouer. Donc, je suis pas forcément inquiet sur le fait que les stars prennent beaucoup de ballons et de tirs, parce qu'elles le font très très bien et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, ces joueurs de talent. Et justement, ils ont de la chance de les avoir, donc autant en profiter. Ouais.
Eh bien, enchaînons. Parmi ces joueurs de talent, il y a James Harden. Parle-moi de James Harden, ton joueur clé, Gabin. Oh, voilà un qui va en faire parler, hein, parce que James Harden est quand même un joueur extrêmement clivant. Donc vas-y, Gabin, pourquoi t'as choisi James Harden?
Bah, c'est chaud, parce qu'il y a qu'un seul ballon sur le terrain et ils sont 3 joueurs. Non, je rigole, bien évidemment. James Harden, j'ai choisi parce que c'est lui qui est l'énorme facteur X en attaque pour les Clippers. C'est lui qui décide un peu du tempo. Les possessions démarrent toujours par James Harden qui remonte le terrain, qui va jouer soit en isolation, soit en pick and roll. Il est létal, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sur pull-up à 3. C'est-à-dire qu'il peut, sur une erreur de décalage, il peut t'enchaîner. C'est une menace que t'es tout le temps obligé de garder à l'œil. Et en plus de ça, c'est un créateur offensif très très efficace. Et on l'a dit, c'est un créateur offensif qui peut compter sur les côtés, sur des décalages de Paul George et Kawhi Leonard. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas venir doubler James Harden parce que c'est trop compliqué de laisser les deux autres sur le côté. Mais il pose des problèmes en défense. Je l'avais expliqué. En fait, c'est un joueur qui est quand même assez ciblé. Et puis sur des décalages, t'es obligé de faire venir en aide Zubac ou d'autres joueurs. Donc en fait, j'ai vraiment hâte de voir James Harden en playoff s'il va réussir à garder cette efficacité offensive, parce que les défenses vont peut-être être beaucoup plus dures. Et autant je sais que Kawhi et Paul George vont garder le niveau, même l'élever, autant James Harden il pourrait être en difficulté de ce côté-là. Donc j'ai vraiment très hâte de voir comment il va s'adapter en attaque, en défense, mais c'est possiblement en fait la pièce, le créateur offensif qui manquait pour ces Clippers. Donc je pense que là on tient l'équipe grâce à lui qui pourrait aller au bout.
Bah, moi, quand on parle de James Harden, quand j'ai vu James Harden joueur clé, j'ai beaucoup pensé à ce que j'avais dit de Rudy Gobert dans l'épisode sur les Wolves, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même cas avec James Harden. C'est un joueur qui clive beaucoup, comme je l'ai dit en te lançant, et qui clive beaucoup, et je suis en accord avec aucun des deux extrêmes. C'est pas le choker, le plus gros choker de l'histoire des playoffs, mais par contre, il, pour moi... Ne pas admettre que c'est un joueur qui parfois, et Amine, je le salue, pourra le confirmer en tant que fan des Sixers, que ce n'est pas un joueur qui, sur séquence, peut un peu fuir ses responsabilités ou moins être dans, bah, tout simplement dans la recherche de responsabilités, à être parfois moins en demande de ballon, je vais réussir à trouver mes mots. C'est un élément qui est notable chez James Harden, même s'il a des grosses perfs en playoff, il a aussi parfois cette capacité à être moins dans cette prise de responsabilité quand ça compte. Là, on peut se rassurer en se disant que il est troisième dans la hiérarchie ou deuxième, ça dépend où on le place. En tout cas, il est certainement pas premier. Donc, c'est peut-être quelque chose qui l'aidera à être plus efficace en playoff et à ne pas justement, s'il y a des moments où il est peut-être un peu moins enclin à prendre ses responsabilités, bah il y a quand même deux joueurs étiquetés All-Star avec lui, donc ça serait moins inquiétant, je pense.
Et puis c'est le problème que j'avais avec les Sixers l'année dernière, c'était qu'il participait beaucoup trop à l'attaque, l'équipe était vraiment dépendante de James Harden. Là on le voit déjà depuis qu'il est arrivé aux Clippers, il est moins responsabilisé. Donc ça lui fait du bien parce qu'il augmente, justement il est meilleur dans ses décisions et dans les shoots qu'il prend, on sait que c'est les bons. Donc ouais, il va pouvoir un peu plus se reposer sur deux superstars et je pense que ça va être un James Harden différent, même si ouais c'est celui des trois stars qui m'inquiète le plus. Si vraiment il y a un joueur qui pourrait changer son style de jeu, ce serait peut-être lui.
Eh bien Gabin, ouais. On est sur un épisode un peu plus court que les autres parce que, soyons honnêtes, on a encore eu des problèmes techniques. C'est vraiment, actuellement, on est vraiment maudit par la technique. Alors que, globalement, ça faisait un an qu'on avait dû faire des épisodes sans problème. Mais là, la technique est mise à rude épreuve en ce moment. On est obligé d'en parler. Il y a ben le plancher et le plafond. Alors, je dis qu'on a fait plus rapide, mais il y a moyen qu'on passe peut-être 10 minutes sur cette séquence. Donc, on va pas dire qu'on a fait encore plus rapide. Le plancher de ces Clippers, tu le situes où d'abord?
Le plancher, c'est le CHU de Los Angeles. Non, sans blague, sur... En fait, on a parlé des blessures, et sur une blessure de Kawhi, bah, tu sais que le titre, c'est fichu. Paul George, c'est compliqué. James Harden, ils ont attaqué toute l'année avec lui. L'enlever maintenant de la rotation, ils vont mettre trop de temps à s'habituer. En fait, sur une blessure une des trois stars, ou même une blessure de Zubac, qui est beaucoup trop important, ton équipe est cassée. Mais le pire, c'est que ça peut arriver, comme on l'a dit. Donc en fait, bon, ça sert à rien que je développe sur potentiellement les match-ups s'il manque tel joueur. Il faut juste retenir que si, ça va être très 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 long, mais s'il manque un des trois joueurs, c'est fini pour cette année. C'est voilà, je pense que tu es d'accord là-dessus.
Mais c'est là où, pour moi, leur prédominance dans la production à trois points et leur importance aussi dans le rôle de l'équipe fait que, en termes de rôle, si un des trois sort, et je pense en particulier à James Harden, c'est pour ça que c'est le joueur clé, c'est-à-dire que qui assure le playmaking, qui est le playmaker prioritaire s'il tombe. Alors, on peut se rassurer en se disant que des trois, c'est peut-être celui pour lequel il y a le moins d'inquiétude, en théorie, James Harden. Mais Kawhi, c'est la règle dont on va parler très rapidement dans un épisode sur Boston. La règle veut que tu ne gagnes pas un titre sans un ancien MVP, alors que Wayne n'avait pas été MVP, mais il avait été MVP des finales. On pourra nous dire qu'il y a James Harden, mais la règle tacite, c'est que il te faut un top 8, 9 NBA pour gagner le titre, si je vois large, et que Kawhi est clairement dans cette catégorie-là, s'il est en bonne santé. Le fait est que s'il n'est pas en bonne santé, il n'y a pas assez de puissance de feu pour rivaliser avec des Denver, avec des Boston, etc. Maintenant, la vraie question des Clippers, moi, qui m'intéresse, Gabin, c'est le plafond. Est-ce que leur plafond, c'est être champion NBA?
Oui. Je vais le dire très honnêtement, à l'Ouest, la seule équipe contre laquelle je pourrais voir les Clippers perdre, et encore, je l'annonce sur une série serrée, c'est les Denver Nuggets. Parce que le match-up est quand même compliqué. Là, on a vu le match de saison régulière pour arrêter Nikola Jokic. Ils ont été obligés de bricoler quelque chose avec PG Tucker. Je pense pas que sur une série de 7 matchs, ça passerait comme ça. Mais les autres équipes, même si on a évoqué les faiblesses, c'est-à-dire le jeu intérieur et les transitions, et je sais que sur les équipes du dessus, donc Wolves, Thunder, les Clippers pourraient prendre assez cher là-dessus. Je les vois quand même passer par leur puissance de frappe offensive. Donc je pense qu'honnêtement, ils pourraient seulement perdre contre les Nuggets, et ils ont des armes pour répondre, en fait, et potentiellement battre ces Nuggets. Même si sur un match-up Nuggets-Clippers, je donnerais peut-être, tu vois, un 4-3 Nuggets.
Oh, donc tu es très, très fan des Clippers, parce que c'est...
Ouais, je suis assez haut, ouais.
Alors moi, je m'étais promis, dès le début, de pas mettre, le début des previews, de pas mettre 5 équipes. Non. 5, c'était un peu ma limite. C'est-à-dire que je suis un peu embêté. Moi, j'ai déjà 4 équipes à qui je vais donner le plafond titre. Et il m'en manque une et j'ai pas mal de jokers. Ça pourrait être... J'hésitais avec Phoenix à un moment, mais finalement, Amine, on en avait discuté. On n'est pas arrivé jusque-là. Miami, moi, je n'y crois pas. Les Clippers, finalement, je suis arrivé au stade où ça, c'était eux, la cinquième équipe que j'allais mettre comme potentiel plafond titre. Et je me suis ravisé au dernier moment pour plusieurs raisons. Le facteur blessure.
Comme le premier,
Gabin, je peux pas croire à cette équipe en bonne santé. Même s'il faut toujours, on me dira, il faut toujours un facteur santé de son côté pour gagner le titre. Mais là, c'est plus qu'un facteur là qu'il faudrait. C'est vraiment énorme. Et moi, c'est plutôt le seeding qui m'embête, en fait. C'est-à-dire que ils démarrent, ils avaient fait un deuxième tiers de saison tellement intéressant que de se retrouver quatrième avec un seul avantage du terrain sur un premier tour. On pourra se moquer en disant qu'il n'y a pas vraiment d'avantage du terrain du côté des Clippers, mais c'est plutôt, les joueurs le disent, par rapport à l'habitude, au fait de justement trouver ses habitudes, de pouvoir rejouer dans sa salle, d'être avec les siens, etc. C'est important, les joueurs le disent toujours. Et moi, je suis vraiment désolé, mais tu ne gagnes pas 3 séries de suite à l'extérieur. Alors oui, je sais, Miami, l'année dernière, Miami va servir d'excuse pendant 20 ans, ça va être horrible, mais je peux pas y croire dans l'Ouest actuel. Ils partent de trop loin, en fait. C'est ça qui me dérangeait. Il y a aussi le fait que certaines de leurs faiblesses défensives, pour moi, ils sont pas assez adaptables au match-up. Je l'ai un peu dit dès le début. Si demain, il y a une équipe qui réussit à rendre Zubac injouable, même si elles seront peut-être pas nombreuses, ils n'ont pas de réponse. Leur seule réponse, c'est on fait un small ball. Ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas un espèce de pivot dans un autre moule. Et ils m'inquiètent beaucoup à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours l'équipe Kawhi Paul George, mais elle a perdu cette adaptabilité qui faisait sa force à une période. Et du coup, ça me paraît trop juste. Donc, je suis d'accord avec toi sur un truc, par contre, Gabin. Si on me demandait de parier de l'argent sur l'équipe qui fait sortir les Nuggets, je serais limite prêt à mettre de l'argent sur les Clippers. Je pense que c'est un de leurs deux plus gros dangers. J'ai pas nommé le deuxième, l'équipe va arriver, mais je peux pas croire en l'état dans les... Je peux pas croire, c'est trop, 3 tours de suite. Il faut qu'ils restent en bonne santé pendant 2 mois.
Ouais. Et en plus, t'as parlé des... L'autre problème du seeding, en plus de pas forcément jouer toujours avec l'avantage du terrain, c'est que pour être champion NBA, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir une série, c'est pas gentil de dire ça, mais un peu tranquille. Mmh. Tu fais un 4-0, 4-1, et pendant que les autres galèrent, toi, t'es déjà qualifié. le je tu mangerais là les Mavs ou les Suns au premier tour, c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau et c'est pas une série où tu pourras enchaîner un 4-0 ou 4-1 tranquillement. Même si je vois les Clippers favoris, tu vas déjà être essoufflé à la fin du premier tour. Donc ouais, sur ce côté-là, je vois à quel point ça pourrait être compliqué. Maintenant, tu parlais de l'adaptabilité. Je pense que Zubac, honnêtement, je suis assez satisfait de son niveau cette année. Ça va poser des problèmes, mais pas au point de se faire exploser de ce côté-là. Et puis, tu parlais de l'adaptabilité, oui. Mais en échange de cette perte d'adaptabilité au match-up, t'as une puissance de frappe offensive assez exceptionnelle. Mmh. Et je pense qu'en termes d'attaque, c'est la meilleure version des Clippers Kawhi Paul George qu'on aura l'occasion de voir. Donc en fait, sur des playoffs où tout le monde est en bonne santé et sur le premier tour, tu galères pas trop, ça passe.
Il y a de ça. Bah, pour moi, c'est assez symptomatique le fait que... Je sais plus qui disait ça, je suis désolé, je cite plus mes sources, là, c'est catastrophique. En gros, depuis quelques années, les Clippers étaient en grande difficulté contre les Nuggets et c'est pas un hasard si cette année les Clips se sont mieux débrouillés contre eux. En fait, c'est pas la même équipe des Clippers. Mais moi, ce qui me gêne juste, c'est vraiment cet aspect blessure. Et ils partent de trop loin. Ils auraient eu le first seed. Je pense que je leur aurais donné le plafond titre sans trop hésiter. Mais il y a c'est trop dur de gagner un titre quand tu dois gagner 3 séries en reprenant chaque fois l'avantage du terrain, assez compliqué. Sans parler du fait que ils ont quand même des équipes qui sont prototypes. Le prototype qui leur pose problème existe de 3 reprises, genre à l'ouest. En tout cas, 2 reprises, genre Pelicans et Wolves leur posent énormément de problèmes. Donc ça m'inquiète beaucoup. Gabin, on l'aura fait. Tu es le premier qui est libéré, délivré. Tu n'as plus d'équipe à traiter, Gabin. Bon, on espère que tout se sera bien passé pour vous. On a eu quelques soucis techniques aussi dans celui-ci, mais je pense que là, notre logiciel a sauvé la mise cette fois-ci, on l'espère. En tout cas, je te remercie, Gabin, de nous avoir parlé des clips, que tu vois donc très, très haut. Nous, on se retrouve dès demain. D'ici là, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube, mais également sur Twitter. Demain, et bien demain, je ne sais pas encore de qui on va parler, donc je ne peux pas vous annoncer de qui on va parler. En tout cas, merci encore une fois, Gabin. Et puis, on prend un peu de repos. On se retrouve dès demain. Salut.
Salut.